Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 avril 2017 et Clotilde Saï vous accompagne pour vous présenter sur Canal M les parts actualités et les titres du jour. Les voici. Alors, 126 000 dollars. Savez-vous que c'est ce que vaut à peu près le travail d'une maman qui reste à la maison pour s'occuper de ses enfants et plus spécialement d'un enfant à qui il faut prêter attention jour et nuit. Également aujourd'hui, 10 pompiers de Richmond soutiennent 2 enfants atteints de dystrophie musculaire. En Beauce, lettre ouverte pour prendre les moyens, les vrais moyens, contre la maltraitance envers les aînés. Benoît Huot, chef de mission adjoint de l'équipe canadienne aux Jeux du Commonwealth, et puis près de 10 ans après un accident de vélo, un Américain paralysé à partir des épaules peut à nouveau utiliser son bras et sa main droite. Nos entrevues du jour, d'abord avec Mélanie Ouimet, qui est la fondatrice de la neurodiversité, l'autisme et les autres formes d'intelligence et organisatrice du salon de cette neurodiversité. Et je m'entretiendrai également aujourd'hui avec Audrey-Anne Trudel, responsable des dossiers à la COFAN au sujet du lancement du rapport « L'accessibilité au web, de la standardisation à l'utilisabilité et réaction au budget provincial ». La valeur du travail d'une mère était le thème de la 17e journée nationale du travail invisible. C'était hier, qui souhaite sensibiliser au travail non rémunéré. En 2010, écrit Amélie Gosselin sur le site de Radio-Canada, ici Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Canada a adopté une motion désignant le premier mardi d'avril comme journée du travail invisible. Dans cette catégorie, on retrouve toutes les formes de bénévolat ainsi que le travail qui est fait au sein de la famille, auprès des enfants ou d'un proche qui a besoin de soins de façon permanente ou temporaire. L'Association féminine d'éducation et d'action sociale, l'AFEA, milite depuis des années pour que le Canada reconnaisse la valeur du travail invisible et le mesure. Bien que les hommes soient plus nombreux qu'avant à endosser ces rôles, il demeure que ce sont principalement les femmes qui font du travail invisible, selon Hélène Cornelier de la FEAS. Tout le travail de bénévolat et au sein de la famille n'a aucune valeur, elle n'est pas inclue dans le produit intérieur brut du pays, ajoute-t-elle. Ce n'est pas par un salaire qu'il faut reconnaître le travail invisible, selon la FEAS. Des mesures fiscales, des prestations et des crédits d'impôt seraient de meilleures options. Le guide d'animation 2016-2017 de la FEAS fait ressortir des données d'une étude américaine selon laquelle le travail d'une mère au foyer se chiffre à 94 heures par semaine et le salaire qu'elle devrait recevoir serait donc de 126 866 $ par année, pour environ 26 $ par heure travaillée. En 1975, année internationale de la femme, l'ONU avait demandé des mesures pour reconnaître et évaluer le travail invisible. Au Canada, la FEAS avait réussi à faire intégrer au formulaire long du recensement une question sur les activités à domicile. C'était en 1996. Cette question a été maintenue jusqu'en 2011, lorsque le gouvernement Harper a modifié le formulaire de recensement. Selon Hélène Cornelier, ce n'est pas pour rien que plusieurs métiers exercés principalement par les femmes sont la plupart du temps moins bien rémunérés. Les éducatrices en garderie, et que dire des éducatrices en garderie spécialisées, ont des salaires moindres parce que ça ne découle pas des fonctions des femmes. Le fait de rendre visite ces tâches pour dire que ce sont des fonctions importantes permet tranquillement de créer des postes de qualité et fait évoluer l'importance de ces tâches, affirme Mme Cornelier. La reconnaissance du travail invisible ou non rémunéré effectué par les femmes comme mères et aidantes constitue le dossier de fond de la FEAS depuis 40 ans. Cette reconnaissance, à la fois sociale, politique et économique, assurerait l'équité entre les personnes, soutient-elle, et permettrait de diminuer la pauvreté chez les femmes. « Madame Ouimet est fondatrice de la neurodiversité, l'autisme et les autres formes d'intelligence. Et le saviez-vous, il existe le salon de la neurodiversité. Et comme elle en est l'organisatrice, eh bien Madame Ouimet était la personne toute désignée pour nous en parler. Bonjour Madame Ouimet.
Bonjour.
Alors, je suis absolument ravie de vous parler ce matin. Je voudrais préciser que vous êtes vous-même une personne qui vivait avec l'autisme, c'est bien ça?
Oui, exactement, je suis autiste.
D'accord. Pour parler au téléphone, ça va, il n'y a pas de problème, Madame Ouimet?
S'il
y
a quelque... Oui, ça va.
Non, parce que s'il y a quelque chose que je devrais faire un petit peu différemment, vous savez, il faut nous le dire aussi, hein. Alors, ne vous gênez pas. Donc, Madame Ouimet, vous avez fondé ce mouvement qui s'intitule « La neurodiversité, l'autisme et les autres formes d'intelligence ». C'était en 2015. J'imagine que l'inspiration, la création de ce mouvement vient de vous, de votre vécu, vous allez nous le dire. Et quel en est l'objectif?
Oui, en fait, l'inspiration a daté comme un petit peu de très longtemps. Pour répondre rapidement, dans le fond, moi, je me suis toujours sentie différente des autres, mais sans savoir d'où provenait cette différence-là. Puis un jour, quand j'avais à peu près 15 ans, j'avais vu un reportage sur l'autisme. Puis je sentais comme un fort sentiment d'appartenance avec les enfants qui présentaient là. Sauf que je sentais aussi en même temps que ces enfants n'étaient pas compris, que leur potentiel puis leur intelligence étaient sous-estimés.
Oui.
Puis bon, c'est resté comme ça. Puis à un moment donné, lorsque j'ai eu ma fille, dans le fond, qui est autiste aussi, j'ai réalisé en même temps que moi aussi, j'étais autiste.
Ah, oui. Donc, ça n'avait jamais été diagnostiqué. Excusez-moi de vous...
Non. Non, il n'y a pas de problème. Non, j'ai été diagnostiquée, j'avais 30 ans, dans le fond.
Vous aviez 30 ans?
Oui, ça fait 2 ans à peu près que j'ai eu le diagnostic.
Ça n'a pas dû être facile dans votre enfance, Madame Ouimet, parce qu'on en parlait beaucoup moins à l'époque. Hein. Maintenant, on en parle beaucoup plus.
Oui, non, c'est ça. C'est sûr que j'ai jamais su. Dans le fond, j'avais aucune idée d'où venait la différence. J'avais fait des petites recherches, comme je dis, mais...
Bon.
Mais alors, peut-être j'ai quelques traits, mais bon.
Bon. Et vos parents, si je peux me permettre, non plus,
oui.
J'imagine, quoi?
Ben non plus, jamais eu soupçonné non plus.
Non, c'est
ça.
Ça
pourrait être... Non,
c'est ça. C'est là quand même où on voit qu'il y a une forme d'évolution, hein. Qu'en pensez-vous?
Oui.
Et ça va continuer avec des gens comme vous, justement, qui continuent à faire connaître ce spectre de l'autisme-là. Alors, la neurodiversité, quel est l'objectif du salon de la neurodiversité?
Dans le fond, ça serait de faire connaître la pensée autistique. À la base, c'est un mouvement qui était pour l'autisme.
Oui.
Puis petit à petit, ça s'est agrandi. La neurodiversité, c'est pas seulement l'autisme, c'est tout le monde, c'est toutes les conditions.
Oui.
C'est vous, moi, le TDAH,
oui.
D'accord. La dyspraxie, c'est pour faire connaître toutes ces conditions-là.
Oui.
Pas de les considérer comme des troubles, mais bien des conditions.
Oui, oui, là, comme quoi, bon, ben, on est tous différents, mais on vit tous sur cette planète-là. On a tous des conditions différentes qui portent des noms différents. C'est ce que vous voulez dire.
Exactement. On n'est pas des individus qu'on est brisés ou avec un déficit ou un trouble quelconque.
Mm-hmm.
C'est simplement une manière d'être qui est différente, même avec les handicaps, les défis que ça peut apporter.
Oui.
Dans le fond, c'est de respecter la différence de chaque personne avec leurs besoins uniques.
OK.
Sans vouloir les normaliser ou les guérir, dans le fond.
Alors, ce sera une première hein, pour ce salon de la neurodiversité, Madame
Ouimet.
Oui,
c'est la première édition.
C'est la première édition. Ça aura lieu à la fin du mois d'avril. Hein, est-ce que c'est une seule journée ou ça va?
Oui, c'est une seule journée. C'est le dimanche 30 avril.
D'accord. Alors, ça va se passer où?
C'est au pavillon, au cœur des sciences, dans le fond de l'UQAM.
D'accord.
Précisément sur l'eau 200 rue Sherbrooke, c'est le pavillon SH.
D'accord,
s'appelle.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, entendre? Qui va-t-on rencontrer au cours de ce salon-là?
Il y aura plus d'une vingtaine de conférences avec
d'accord.
une quarantaine d'exposants. Donc, on va pouvoir rencontrer des personnes qui sont neurodiverses pour parler de leur propre expérience. Il y a également des professionnels qui vont venir donner des pistes d'aide pour les personnes neurodivergentes, les parents d'enfants qui sont différents. leur entourage.
Oui,
Et
alors donc avec des spécialistes, j'imagine, des témoignages, donc c'est bien ça, hein, de gens
oui,
vivants,
exactement.
d'accord, avec la différence. Et ça s'adresse, est-ce que votre salon s'adresse aussi aux gens qui ne seraient pas forcément, entre guillemets, concernés, mais qui voudraient en savoir plus? Ça
Oui,
s'adresse à
certainement.
tous,
Certainement, ça
bien
s'adresse à
sûr.
tous parce que, comme je disais plus avant, la neurodiversité, c'est tout le monde, dans le fond.
Oui, oui,
Donc,
oui, oui,
c'est
oui.
un peu comme les différences ethniques, culturelles. C'est la
Oui,
même chose, dans le fond, là. Ça
c'est
nous
ça.
concerne
Et
tous.
oui, mais je trouve que c'est un bel exemple que vous avez là, Madame Ouimet. Puis justement, je me disais en vous écoutant, c'est exactement comme si on apprenait tous une langue finalement pour tous se comprendre malgré la différence, quoi.
Oui, exactement, dans le fond.
Bon, alors écoutez, donc ça va se passer, vous me disiez, le 30 avril le prochain à l'UQAM, au 200 rue Sherbrooke, hein, c'est bien
Exactement.
ça. C'est le pavillon des sciences, hein, exact,
Oui, au
c'est.
cœur des sciences, oui.
D'accord. Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Comment est-ce que ça va coûter de l'argent et on fait comment pour s'inscrire?
Oui, dans le fond, c'est le site internet, c'est neurodiversité.com.
Neurodiversité.com, d'accord.
Ouais, dans la section Salon 2017, il y a toute la liste des conférences avec les exposants.
D'accord.
Et puis, il y a la billetterie, dans le fond, qu'on est le point de vente.com. L'entrée, elle est 5 $.
D'accord. Oh mon Dieu, c'est pas
Les
cher.
conférences sont 20 $ pour une conférence avec l'entrée et 25 $ pour l'entrée avec les conférences illimitées
Bon,
par bloc.
alors vraiment, ça vaut le coup, hein, pour en savoir plus et puis pour apprendre à vivre tous ensemble, hein, à un moment donné ou à un autre. Il va bien falloir que ça arrive.
Oui,
Hein?
effectivement.
Bon, ben, écoutez, Madame Ouimet, Mélanie, je vous remercie
Ben, c'est moi
beaucoup.
qui vous remercie.
Maintenant, je vous en prie, puis je vais prendre une petite note peut-être pour qu'on se reparle après, pour savoir comment ça s'est passé, hein, au mois de mai.
OK.
Est-ce que ça vous plairait?
Oui, ça serait bien.
Alors, je prends une petite note et il y a quelqu'un qui va vous rappeler à ce sujet.
Parfait.
Je vous en prie, Mélanie, passez une belle journée.
Moi aussi.
Allez, au revoir. Alors, par actualité régionale maintenant, 10 pompiers de Richemont soutiennent 2 garçons atteints de dystrophie musculaire et vous allez voir que eux, les pompiers, d'ailleurs, et les femmes pompiers vont avoir besoin de toute leur musculature pour ce défi-là. C'est une famille de Saint-Denis de Brompton qui a la chance d'avoir été choisie par 10 pompiers et femmes pompiers du service de sécurité incendie de la région de Richemont qui vont participer au défi gratte-ciel le 2 juin prochain. Sébastien Péloquin est le responsable de cette initiative qui verra aussi à ce que chacun de ses coéquipiers recueille chacun 100 $. Alors, qui sont ces 2 jeunes garçons? Ils sont âgés maintenant de 10 ans. Zachary, il est le premier enfant qui a été atteint de la dystrophie musculaire. Et puis, il y a eu ensuite Jérémy, donc un à 10 ans et l'autre à 6 ans, Jérémy, qui souffre également de cette maladie, même si le papa n'est pas le même. Et il y a la maman, Mélanie Poulain, qui apprécie évidemment énormément le soutien des pompiers de Richemont. On sait que la dystrophie musculaire est une maladie qui demande beaucoup d'attention. Vous savez, quand on parlait des femmes qui travaillent plus de 90 heures par semaine, je pense que Mme Poulain en fait partie. Elle dit que ça fait du bien de pouvoir partager ce que nous vivons. Alors, c'est unique au Québec, ce défi gratte-ciel qui présente l'avantage de 3 défis différents. Il faut d'abord savoir que l'événement a été instauré en 1997 par un pompier de Montréal qui s'appelait Denis Harel, qui s'appelle Denis Harel, qui avait escaladé à lui seul, écoutez bien ça, les marches de 30 édifices du centre-ville de Montréal. Maintenant, 3 défis différents. Il y a l'extrême, l'endurance, qui consiste à monter 48 étages autant de fois que pu, entre une période de 5h30 et jusqu'à 11h du matin. Il y a le défi Frédéric Duguay, qui est un défi de vitesse qui a pour but de monter les 48 étages une seule fois, mais en 480 secondes, avec une tenue intégrale et connectée à un APRIA, c'est-à-dire un appareil de protection respiratoire individuelle autonome. Et il y a le défi régulier, qui permet à de nombreux pompiers de se mesurer aux 48 étages et 1125 marches, dont ceux de Richemont, qui chacun s'entraîne à différents endroits, dont les gymnases. On peut l'imaginer qu'on ne ferait pas ça du jour au lendemain. Alors bravo à ces pompiers, puis bravo à ces 2 jeunes garçons qui vont profiter, et d'autres aussi d'ailleurs, de ces marches montées par nos camarades pompiers. En Beauce maintenant, prendre les vrais moyens contre la maltraitance envers les aînés. C'est Stéphane Quintin, le journaliste, qui dit que dans une lettre ouverte intitulée « Prendre les vrais moyens contre la maltraitance envers les aînés », le directeur général du regroupement provincial des comités des usagers, le RPCU, Pierre Blin, demande aux élus de l'Assemblée nationale de renforcer la loi pour corriger la situation. Cette lettre fait référence aux travaux sur le projet de loi 115, loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité et aux récentes révélations concernant certains cas de maltraitance au CHSLD de Beauceville, ne riez pas. L'Assemblée nationale étudie en ce moment un projet de loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Le RPCU a fait une proposition sérieuse pour contrer véritablement la maltraitance. Et cette proposition, c'est que dès les premiers soupçons de maltraitance ou dès qu'elle en est informée par un membre du personnel d'une situation problématique, la direction doit agir et prendre les mesures pour enquêter et surtout pour protéger les personnes vulnérables. Mais malheureusement, dans le réseau de la santé et des services sociaux, personne ne semble avoir encore considéré cette avenue, ni même la ministre responsable des aînés. Cela dit, nous continuerons de proposer des formations et des conférences pour contrer la maltraitance et nous offrirons à nouveau notre collaboration à cet effet, de dire Monsieur Blin, qui s'occupe donc du RPCU. Préoccupé par les effets de l'application des trois standards du gouvernement du Québec sur l'accessibilité du Québec et en prévision de leur révision initialement prévue en 2016, la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, a entrepris un projet d'évaluation de l'accessibilité de différents sites web par le biais d'une analyse de conformité et de tests d'utilisabilité. Et j'ai la bonne personne pour nous en parler parce que j'ai au bout du fil la responsable des dossiers, Audrey-Anne Trudel. Bonjour Audrey-Anne.
Bonjour.
Alors donc, il a été établi, ce rapport-là. Je me souviens d'ailleurs que j'avais lu une nouvelle au Par Actualité il y a maintenant quelques jours ou quelques semaines. Vous avez choisi 12 sites web à tester.
Oui.
Alors, quels sont-ils et quels ont été surtout les critères de sélection?
Bien, en fait, les sites web là, ont été sélectionnés à partir d'une consultation de nos membres. Le but, c'était d'avoir un échantillon là, de sites web qui représentait en fait un usage quotidien ou bien
oui.
par les personnes. Là. Mm-hmm. Donc, on a certains sites web qui étaient d'organisations gouvernementales qui sont assujettis à des standards du web. Donc, Emploi Québec, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, l'Office de la protection du consommateur, Hydro-Québec et le Musée de la civilisation de Québec. Et on avait également certaines organisations qui ne sont pas assujetties, donc des organisations publiques et parapubliques, dont le réseau de transport de la capitale et le site web de la Ville de Montréal. Et finalement, certaines entreprises privées, donc IGA, Jean Coutu, Tout.tv, La Presse et Walmart.
Alors, l'accessibilité au web, quels sont les constats qui ont été faits? Est-ce que c'est réellement accessible pour les personnes qui vivent avec différents handicaps ou pas?
Oui et non. En fait,
comme
vous l'avez dit en introduction, l'analyse s'est faite en deux volets. La première, c'était une analyse de la conformité aux standards.
Mm-hmm.
Donc, pour les organisations gouvernementales, on a pris les standards auxquels elles sont assujetties.
Mm-hmm.
Pour les autres entreprises et organismes qui ne sont pas assujettis, on a pris des standards internationaux reconnus. Et ce qu'on a réalisé, et ça c'était le premier volet. Le
mm-hmm.
deuxième volet, on a mené des tests avec des utilisateurs qui présentent différentes limitations, donc des déficiences visuelles, auditives, intellectuelles, problèmes de motricité fine,
okay.
entre autres, pour voir s'il y avait dans le fond un lien entre la conformité aux standards et l'utilisabilité réelle des
oui.
sites web et s'il y avait avantage, dans le fond, à combiner ces deux approches-là lors du développement là, de sites web accessibles. Et notre première observation, c'est qu'effectivement, la conformité aux standards ne garantit pas la satisfaction et la réussite de l'utilisateur. Donc, les utilisateurs avaient des scénarios préécrits à réaliser qui représentaient des situations de la vie quotidienne. Et certains sites là, qui ont obtenu des taux de conformité plutôt élevés n'ont pas nécessairement obtenu des taux de réussite de scénarios qui sont élevés, ni même des notes de satisfaction. Là, donc, la satisfaction de l'utilisateur par rapport à son expérience qui était très élevée. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre ces deux choses-là. Donc ça, c'était le premier constat. Notre deuxième constat qui ressort, là, c'est que les personnes qui ont des limitations ont généralement besoin de plus du double du temps pour réaliser une tâche que les personnes qui étaient sans limitation. Donc ça, ça nous montre que les sites web ne sont pas nécessairement accessibles aux personnes qui ont des limitations. Et le troisième constat, nous, que je ressors, là, c'est que le gouvernement a choisi de ne pas assujettir toutes les organisations là, gouvernementales et parapubliques et pas des entreprises privées, mais il espérait, dans la politique sur l'accès aux documents, que le fait d'assujettir certaines organisations, dont les ministères et tout, allaient avoir un effet d'entraînement sur les organisations non assujetties. Et on constate que
ce n'est pas le cas. Mais non, c'est ça. Regardez, ça c'est... En tout cas, il me semble que c'est une certaine évidence. Les gens, pourquoi se casser la tête si ce n'est pas obligatoire, quoi?
Ben, exactement.
Alors, moralité, il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous avez émis quelles recommandations?
Bien, en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est de se rallier aux normes internationales pour un souci de simplification et d'harmonisation, parce que les experts du web, là, les développeurs doivent savoir à quels critères se fier. Là. Se changer constamment de critères, c'est pas tellement efficace ou cohérent. Étendre l'application des standards à toutes les organisations publiques, parapubliques et municipales, et faire la promotion auprès des acteurs privés, là, c'est ça nos principales recommandations.
Mais oui, pour les obliger, je veux dire, pour leur dire, attendez, là, il y a beaucoup de gens dans votre clientèle qui peuvent même pas utiliser votre site Internet parce qu'il n'est pas adéquat à leur...
Oui, également, un élément important, ça serait d'ajuster les programmes de formation là, aux professionnels de l'informatique pour ajouter dans la formation des considérations par rapport à l'accessibilité.
Avez-vous entendu parler de ce qui s'est passé à Radio-Canada en fin de semaine dernière? Il y a eu un regroupement pour l'accessibilité, mais là, on ne parle pas d'accessibilité universelle, donc envers les personnes vivantes avec un handicap, mais accessibilité, point. C'est-à-dire qu'ils ont réuni des spécialistes et toutes sortes d'utilisateurs aussi, parmi des gens qui ne présentent, en apparence en tout cas, aucune différence. Et est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Non, vous me l'apprenez, je suis curieuse.
Ben, écoutez, j'en ai parlé hier ou avant-hier à cette émission-là. Ça a été mis sur place par une personne de la Caisse Pop, de la Caisse Desjardins, qui est spécialiste en accessibilité. Mais je me suis aperçue en leur posant des questions, parce que je leur ai dit, mais est-ce qu'il y avait un volet consacré à l'accessibilité universelle, donc à l'accessibilité du web pour tous? Et là, il y a eu un petit blanc, elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, j'ai dit, écoutez, pour tous, comme dans pour tous, c'est-à-dire...
C'est ça, en fait.
Eh bien, non.
Il y a beaucoup d'entreprises et d'organisations qui mènent déjà des tests d'utilisateurs, c'est pratique courante, mais on prend pas un échantillon qui est représentatif de la population, c'est ça le problème.
C'est ça, exactement. Alors, bon, en tout cas, parce que je pense que ça aurait peut-être été bien, hein, dans le cadre d'une grande consultation comme ça, menée entre autres par Radio-Canada, c'est une excellente initiative, mais ça aurait peut-être été sympathique, quoi, de pouvoir contacter des organismes ou des confédérations d'organismes comme la COFAN, Audrey-Anne Trudel.
Ben oui, et nous, on a développé une certaine expertise dans le domaine, donc on se tient à la disposition des acteurs intéressés pour les supporter dans leur démarche.
Ce qu'il faudrait, voyez-vous, je vais encore là me prendre une petite note, il faudrait vous mettre en contact avec cette personne-là.
Ben oui,
d'accord. Alors, je me prends une note tout de suite, voyez-vous, puisque nous sommes en direct, voilà. Alors, mettre en contact et je vous donnerai le nom de la personne et puis je trouve que ce serait très, très important de le faire. D'accord?
Oui.
Alors, Audrey-Anne, vous savez que le temps passe très vite en radio.
Oui.
J'aurais bien aimé savoir aussi ce que vous pensiez des nouveaux développements du côté du gouvernement. Mais bon, on manque un petit peu de temps, mais on va se reparler, d'accord?
Absolument.
Je vous souhaite une belle fin de journée, Audrey-Anne.
Pareillement.
Prenez soin de vous.
Au revoir.
Au revoir. Alors, par actualité nationale, maintenant, il n'a pas encore l'intention de raccrocher son maillot de compétiteur, mais cela n'empêche pas Benoît Huot de préparer son après-carrière. Eh bien, il a franchi une nouvelle étape en ce sens, en acceptant le rôle de chef de mission adjoint de l'équipe canadienne qui prendra part aux Jeux du Commonwealth, présentés à Gold Coast en Australie l'an prochain. La nouvelle a été annoncée hier matin, à un an jour pour jour de l'événement. Il secondera la chef de mission Claire Carver-Diaz. Huot est l'un des Paralympiens canadiens qui a connu le plus de succès dans l'histoire, ayant remporté 20 médailles en 5 Jeux paralympiques entre 2000 et 2016. Il a participé 3 fois aux Jeux du Commonwealth, où il a remporté 4 médailles et fracassé plus de 60 records du monde dans sa catégorie. Et il n'entend pas s'arrêter là, puisqu'il a confirmé le week-end dernier à Windsor, en Ontario, sa place au sein de l'équipe canadienne pour les championnats du monde de paranatation qui auront lieu à Mexico du 30 septembre au 6 octobre. Après les Jeux paralympiques de Rio, j'ai décidé de garder toutes les opportunités ouvertes, mais je ne m'attendais pas à cette proposition, a-t-il déclaré. C'est vrai qu'on se souvient qu'on avait parlé ici même à l'émission Les Paractualités avec Benoît Huot et qu'à ce moment-là, il ne se doutait pas qu'il allait rejoindre la délégation canadienne pour les Jeux du Commonwealth. En tant que, non pas chargé de mission, de chef de mission, mais secondeur quand même. Alors bravo à Benoît Huot. Près de 10 ans après un accident de vélo, un Américain paralysé à partir des épaules peut à nouveau utiliser son bras et sa main droite pour boire ou manger grâce à une nouvelle neuroprothèse saluée comme une première médicale par des chercheurs. C'est un article qui nous vient de l'AFP. L'agence française France Presse, pardon. Cette avancée remarquable réalisée aux États-Unis à Cleveland dépend d'un dispositif qui contourne la lésion de la colonne vertébrale en utilisant des fils, des électrodes et des logiciels informatiques pour reconnecter son cerveau et les muscles de son bras paralysé. À notre connaissance, c'est le premier exemple au monde d'une personne atteinte d'une paralysie totale complète, utilisant directement la pensée pour déplacer le bras et la main pour effectuer des mouvements fonctionnels, a déclaré le co-auteur de l'étude, Bolu Ajiboye, à l'AFP. Le patient âgé de 56 ans, Bill Kochvar, tétraplégique, blessé au niveau de la quatrième cervicale, a 2 boîtiers sur la tête et 192 microélectrodes implantées chirurgicalement dans son cerveau, qui enregistre les signaux que sa matière grise envoie lorsqu'il imagine bouger le bras et la main par l'imagination. Et avec ce dispositif expérimental, ses muscles reçoivent des instructions par le biais de 36 électrodes implantées dans son bras et son avant-bras. Il peut ainsi utiliser pour boire ou son bras pour boire une gorgée de café, se gratter le nez et manger de la purée de pommes de terre. Pour quelqu'un qui a été blessé depuis plusieurs années, qui ne pouvait pas bouger, être capable de bouger juste ce petit peu est impressionnant, a déclaré M. Kochvar. C'est mieux que ce que je pensais. Mais les mouvements, on se le dit, sont encore lents et approximatifs, écrit-il en pointant les nombreux obstacles qu'il reste à surmonter en matière de neuroprothèse. Mais c'est néanmoins une démonstration passionnante. C'est sur cette bonne nouvelle que s'achèvent les paractualités. Bonne journée et à demain, 11h30.